Donc, aujourd'hui est la journée des enseignants. Donc, elle a lieu chaque année et on célèbre donc tous les enseignants à travers le monde. Le thème cette année, c'est les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Donc, peut-être pour commencer, pourquoi ce thème justement?
Ce thème parce que les enseignants sont des acteurs majeurs et pour la relance de l'éducation, l'année académique qui démarre, mais également parce que même avant la pandémie, nous avions des défis auxquels les enseignants faisaient face et auxquels la communauté internationale faisait face. Donc, il fallait rappeler que les enseignants restent les éléments ou l'acteur majeur dans la qualité de l'éducation, dans l'équité et l'inclusion, et donc au niveau de l'avancement de l'ODD 4, donc l'objectif de développement durable 4 lié à l'éducation.
Et justement, quels sont les défis auxquels les enseignants sont confrontés aujourd'hui?
Je dirais qu'il y a des défis qui sont liés à la crise du Covid, mais il y a aussi des défis structurels. Quand on parle des défis liés à la pandémie, tout d'abord, bien sûr, il y a toute la question des pertes d'apprentissage. Nous avons toutes les preuves et les recherches le montrent que les pertes d'apprentissage sont énormes, mais ne sont pas égalitaires. Et donc, ce sont les personnes les plus défavorisées, le plus qui sont affectées par les pertes d'apprentissage. Donc, les enseignants, dans la phase de relance, ont un rôle majeur de récupérer, de s'assurer que les élèves reprennent, je dirais, leur enseignement et leur apprentissage et que les pertes qui ont été enregistrées sont résorbées ou au moins atténuées. Donc ça, ce sont des problèmes, je dirais, liés à l'ouverture, liés à la pandémie. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont autour de la gestion du bien-être des apprenants, des relations avec les familles, avec la communauté. Donc les enseignants sont attendus également, pas uniquement sur l'aspect, je dirais, apprentissage ou enseignement-apprentissage, mais également sur les aspects du bien-être, de l'affectif et donc de la relation avec la communauté et la société. Ça, c'est un premier volet qui est lié au Covid. Mais quand on pose, je dirais, la perspective d'une manière un peu plus large, nous avions des problèmes structurels auxquels les enseignants vont faire face dans cette phase de relance, qui sont tout d'abord le manque d'enseignants. Au niveau international et notamment en Afrique subsaharienne, nous avons un manque d'enseignants, un manque d'enseignants en termes de nombre, mais également un manque d'enseignants en termes de qualité, donc des enseignants qui sont qualifiés et qui peuvent améliorer la qualité de l'apprentissage et l'atteinte de l'objectif de développement durable 4. Donc il y a cette dimension, je dirais, quantitative, mais il y a également une dimension qualitative auxquelles il faut faire face. Et ensuite, nous avons aussi des données qui montrent que les enseignants ne sont pas formés dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Nous l'avons vu au niveau des compétences numériques. Il y avait même dans les pays de l'OCDE, il y avait environ 40% des enseignants qui déclaraient ne pas avoir bénéficié de formation autour de la technologie, de l'information et de la communication. Si on va plus loin au niveau international, nous savons qu'il y a un nombre très important d'enseignants qui n'ont pas les compétences et les qualifications qui sont au niveau des standards nationaux. Donc nous avons un décalage également par rapport au profil et en général, il leur manque également des compétences numériques et des compétences autour de la pédagogie d'éducation à distance ou de l'hybride, puisque au retour à l'école, les pays sont en train d'adopter plutôt des dispositifs hybrides que des dispositifs en ligne ou à distance complètement.
Peut-être juste pour remettre un peu certains chiffres, connaissons-nous le nombre d'écoles qui ont été réouvertes aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comparé à l'année académique 2020-2021, les données que nous avons collectées au niveau du retour à l'école sont quand même bonnes. Nous avons actuellement plus que 124 pays qui ont ouvert complètement l'école et donc et les apprentissages se font en présentiel. Nous avons plus que 30 pays qui sont encore en études partielles et actuellement, nous avons 14 pays qui sont encore dans une situation, je dirais, de fermeture d'école à cause du Covid, bien sûr. et ça couvre un nombre assez important quand même d'élèves et d'apprenants. Selon nos données, c'est à peu près 60 millions d'apprenants quand même qui sont encore affectés par la pandémie, ce qui constitue environ 3,4% de l'ensemble des élèves au niveau international.
Et vous parliez un peu plus tôt justement du bien-être des enseignants. Pourquoi c'est important? Pourquoi la santé et le bien-être des enseignants est si important?
Tout d'abord parce que la pandémie a montré qu'elle affecte pas uniquement, je dirais, le processus d'apprentissage, mais également le bien-être des enfants, des cas d'isolement, des cas de stress, des cas aussi, et nous le savons surtout dans les sociétés les plus, je dirais, impactées. On sait qu'il y a du mariage précoce, il y a de la violence dans les familles. Donc il y a des facteurs qui font que les enfants et les élèves sont affectés par la situation et dans leur bien-être. Que l'école n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage, mais aussi c'est un lieu d'intégration sociale, c'est un lieu de nutrition, c'est un lieu de santé. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Et derrière, les enseignants agissent ou sont affectés de deux manières. D'une part, ils doivent accompagner les élèves dans leur bien-être et s'occuper du bien-être de leurs apprenants, parfois même des familles, de leur communauté, mais aussi eux-mêmes, ils sont affectés puisqu'ils sont affectés dans leur isolement. Ça peut être au niveau social, ça peut être aussi du stress à cause du manque de compétences. C'est aussi le stress lié au Covid et les enseignants ont été quand même en première ligne puisque certains ont continué à enseigner, d'autres ont été appelés à enseigner même dans des situations où la crise sanitaire n'était pas résolue. Donc il y a tous ces éléments qui font que les enseignants, dans leur bien-être, doivent aussi tenir compte, en tous les cas, des bien-être des enfants, des apprenants, mais également de leur bien-être. Et d'après nos données, certains pays ont mis en place des dispositifs d'accompagnement des enseignants, des dispositifs de formation des enseignants autour des questions du bien-être. Et je pense que c'est un élément qui va devenir structurel. Je pense que jusqu'à la crise, nous n'avions pas donné assez d'importance à cette dimension-là, mais c'est une dimension qui va continuer à être présente parce que malheureusement, les crises ne vont pas disparaître. Nous vivons et nous continuons à vivre une crise sanitaire, mais des crises environnementales, nous nous attendions, et nous le savons, ça peut être localisé, mais ça peut être aussi international, des crises liées à des situations politiques ou des crises liées au conflit. Donc, ces crises, elles sont multiples, et les enseignants et les apprenants doivent intégrer la dimension du bien-être, et les politiques également, dans les dispositifs qui sont mis en place, dans le curricula, mais également dans la formation des enseignants et leur préparation.
Oui, justement, donc vous parlez de ce qu'il faut faire justement pour aider ces enseignants. Donc, qu'est-ce qui est déjà mis sur place pour aider ces enseignants et qu'est-ce qui reste à faire vraiment?
Alors, tout d'abord, la situation, elle n'est pas la même dans différents contextes. Mais d'après nos données, nous avons un nombre assez important de pays qui ont mis en place des dispositifs d'accompagnement des enseignants. Par exemple, des formations liées au numérique, à la pédagogie à distance, mais également au bien-être et d'autres dimensions. Par exemple, des centres d'accompagnement des enseignants. Par exemple aussi, des ressources qui ont été mises à disposition des enseignants pour assurer la formation à distance ou pour retourner à l'école et relancer, si je peux me permettre le terme, la machine éducative. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Mais malheureusement, seulement 3 dans 10 pays de l'Afrique subsaharienne ont déclaré qu'ils ont mis en place des dispositifs d'accompagnement des enseignants. Donc, on a quand même environ 30 pays qui n'ont pas mis en place des dispositifs spécifiques pour accompagner les enseignants. Et ça, c'est une action qui doit être faite, que ce soit à travers les politiques nationales, à travers la société civile, mais également à travers la communauté internationale pour accompagner les pays, accompagner les enseignants dans cet effort. Ce sont des dimensions liées, bien sûr, au Covid, mais en réalité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les défis sont aussi structurels. Par exemple, sur la question de la rémunération des enseignants, nous savons que les enseignants, par rapport à des diplômes équivalents, sont moins payés et donc l'attractivité du métier, elle est très faible. Que le statut des enseignants dans certaines sociétés n'est pas très élevé et du coup, le métier d'enseignant n'est pas valorisé dans les sociétés. Que le métier d'enseignant est aussi un métier qui évolue Et donc, il y a un effort à accompagner les enseignants dans leur développement professionnel, dans leur carrière. Et encore une fois, les dispositifs varient, la qualité des dispositifs varie. Donc, l'UNESCO appelle d'une part, au niveau immédiat, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement des enseignants pour la relance de l'éducation autour de la primauté en termes de vaccination, la primauté en termes d'accompagnement de leur bien-être, mais également de formation et d'accompagnement professionnel. Ça, c'est par rapport au Covid, mais par rapport à la question plus structurelle. Tout d'abord, nous mettons en place toutes les analyses pour identifier quels sont les besoins et quelles sont les actions politiques qui sont à mettre en œuvre, mais également nous mettons en place et nous avons lancé une initiative qui s'appelle en anglais Global Teacher Campus, donc le campus international des enseignants qui vise à équiper les enseignants avec les compétences numériques, les compétences pédagogiques et surtout les compétences des dispositifs en hybride. Donc ce sont des actions et au niveau, je dirais, système et politique, mais également au niveau des développements des capacités.
Vous parlez justement des compétences et de la technologie, mais il y a tout de même cette différence, disons, on dit de digital divide, n'est-ce pas, de la division numérique. Donc, est-ce que tout ça n'est pas lié justement pour arriver que ces enseignants aient la compétence et la compétence numérique, il faut aussi que les gouvernements et les sociétés puissent tous travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus cette différence entre certaines populations à cause de cette division dans le numérique, justement?
Absolument. Nous pensons que l'action doit être multi-acteur. En fait, les pouvoirs publics ont des responsabilités dans le droit à l'éducation et derrière donc le développement des capacités des enseignants, le recrutement, le financement des salaires et du développement professionnel. Mais l'action ne peut pas être uniquement de la part des pouvoirs publics. Il faut aussi que d'autres acteurs soient associés. Tout d'abord, les représentants des enseignants eux-mêmes, donc les syndicats d'enseignants. Le dialogue social dans l'éducation est important et nous le valorisons. C'est le travail que nous faisons avec nos collègues de l'OIT et avec Éducation internationale, le syndicat des enseignants au niveau international. Mais il y a aussi, je dirais, par rapport au numérique, le rôle de la société civile et du secteur privé. Nous pensons que ces acteurs peuvent contribuer d'une part aux actions de développement des capacités, au financement des actions, mais également à l'accompagnement des enseignants dans leur effort de développer leurs compétences numériques. Mais il faut faire attention à la question de l'équité. Nous savons aujourd'hui que la question de la connectivité reste quand même un problème majeur dans beaucoup de pays, y compris dans les pays les plus développés, mais d'une manière un peu plus accrue dans les pays en voie de développement. Donc, la question de la connectivité reste un élément important. La différence entre les zones rurales et les zones urbaines. Et donc, on appelle à une attention particulière aux enseignants qui servent dans les zones les plus défavorisées. C'est là où il faut mettre l'accent, c'est là où il faut mettre la priorité, puisque nous savons qu'il y a quand même des différences majeures et la question du numérique reste un point important. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à l'Internet. Donc, il faut quand même agir dans cette direction. Et nous, avec environ 190 partenaires, depuis le début de la crise, nous avons lancé une coalition internationale pour l'éducation, dont l'objectif est de s'assurer que personne n'est laissé pour compte et que l'action soit une action multi-acteur entre les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, les médias et le secteur privé de la technologie, que ce soit les acteurs de la télécommunication ou bien de la technologie de l'information et de la communication dans l'éducation. Nous avons lancé cette plateforme pour répondre aux défis et pour mettre en place des partenariats au niveau local. Pour vous donner un exemple, par exemple, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Imagine École pour les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone avec la CONFEMEN, avec donc la conférence des ministres de l'éducation francophone, avec la francophonie, avec le gouvernement français pour toucher environ 200 000 enseignants et 6 millions d'élèves avec des ressources éducatives destinées aux différents niveaux de l'éducation. Et nous travaillons actuellement dans la mise en œuvre de cette initiative qui est financée par le Partenariat mondial de l'éducation. Donc voilà, ce sont des exemples d'initiatives qui visent à appuyer les pays à résorber le déficit en termes des ressources numériques, en termes de l'accès à l'information et à l'éducation à distance.
Monsieur Chakroun, vous auriez un dernier message en cette journée?
Absolument. Je pense que tout d'abord, il faut célébrer, il faut bien sûr reconnaître le rôle de l'enseignant. Je voudrais juste me référer à Victor Hugo qui disait « Les maîtres d'école sont les jardiniers en intelligence humaine ». Et face à l'intelligence artificielle, nous devons célébrer l'intelligence humaine et les jardiniers de cette intelligence.
Monsieur Boren Chakroun, merci beaucoup pour cette interview. Au revoir.
Merci, au revoir.